Eh, hey, petite question avant votre épisode, vous êtes où là? Vous écoutez ce podcast pendant une douche express ou sur le trajet du boulot? Alors allons à l'essentiel. Et si je vous disais qu'il existe un produit pour prendre soin de vos soucis de peau de la grossesse au postpartum? Je suis heureuse de vous présenter le nouveau produit d'une marque que j'affectionne depuis ma première grossesse en 2010, l'essentiel maternité de Mustela, un lait certifié bio, multi-action, compatible avec l'allaitement, qui permet de prévenir et d'apaiser les vergetures, les démangeaisons et les tiraillements, et passer un moment rien qu'à soi. L'essentiel maternité par Mustela, le produit que j'aurais vraiment aimé trouver. Allez à l'essentiel et bon épisode. Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige, et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute! Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode que j'enregistre en compagnie d'une très belle personne que vous connaissez peut-être déjà sûrement si vous êtes un petit peu curieux de tout ce qui se joue dans la période périnatale. J'ai nommé Marie Mahé. Marie, je te laisse te présenter, voilà.
Bah, bonjour tout le monde, bonjour Edwige. Oui, donc moi je suis Marie Mahé Poulain, je suis psychologue clinicienne et je suis aussi l'autrice d'un livre qui s'appelle Le Mois d'or et du cahier d'exercice d'ailleurs pour se préparer en couple aussi au postpartum. Je suis aussi cofondatrice avec Céline Chadela, avec qui je collabore beaucoup et joyeusement d'un organisme de formation qui forme les professionnels qui souhaitent se spécialiser dans l'accompagnement du postpartum. D'ailleurs, nous on parle des 5 mois à peu près après l'accouchement, et aussi des accompagnantes postnatales à domicile qui se déplacent dans le foyer des jeunes familles pour les soutenir de manière globale, tant du côté psycho-émotionnel, parental, mais aussi logistique, pour leur permettre de mieux vivre ces premières semaines après l'arrivée d'un bébé. Et puis j'exerce aussi donc en tant que psychologue, hein, là on est dans mon cabinet. C'est la première chose qui se passe ici, je suis toute émue parce que je viens de changer de cabinet, je recommencerai là les consultes dans les semaines qui viennent, mais c'est le tout premier moment qu'on vit ensemble, alors je trouve ça beau aussi qu'on puisse enregistrer ce podcast pour ouvrir cet espace aussi.
C'est une belle inauguration.
Ouais. Dans le partage.
Marie, dans son nouveau cabinet. À une heure de Vannes, donc c'est notre première rencontre, même si Marie, toi je te connais depuis mon propre mois d'or en fait,
ouais.
Même avant, je l'ai préparé ce fameux mois d'or,
ouais.
Donc on va pouvoir peut-être parler un peu plus de cette thématique là, vu que tu es reconnue et donc tu t'es assez spécialisée, tu as une certaine expertise dans cette période-là. Donc moi, j'accompagne le postpartum, mais un peu différemment de toi et de ce que tu peux proposer, parce que je vais au domicile, mais vraiment ponctuellement. Et d'ailleurs, je suis très sensible à travailler en collaboration avec des accompagnants de postpartum à domicile,
ouais,
quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a un vrai besoin. Du coup, est-ce que tu veux nous dire ce que c'est concrètement le mois d'or pour les personnes qui ne connaissent pas cette notion?
Bien sûr. Alors, le mois d'or, on parle de cette période après accouchement. C'est un terme, une période qu'on retrouve dans de très nombreuses cultures, hein, dans l'espace de notre planète et aussi dans le temps, qui parle de ce premier mois ou de ces premiers 40 jours après la naissance d'un bébé, et qui est accompagné de pratiques spécifiques, tant de soins du côté de la mère, des maux du postpartum, de prendre soin d'elle et de sa récupération après l'accouchement, évidemment, mais aussi de venir déléguer, de venir prendre en charge un petit peu hein, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est effort, pour que justement eh bien, la mère récupère, la petite famille tisse des liens aussi avec le bébé, que ce bébé ait aussi cette bulle d'atterrissage dans ce monde aérien hein, qui débarque quand même complètement, et que ça soit une période la plus favorable possible pour les démarrages soit de cette petite famille ou soit avec l'arrivée d'un nouveau bébé quand il y a des aînés. Donc cette période-là prend des noms différents hein, en fonction, on parle de la quarantena en Amérique du Sud, enfin il y a énormément de noms qui sont mis dessus. Nous c'est quelque chose qu'on ne nommait pas en fait en France jusqu'à il y a peu. Alors, à un moment donné on parlait des relevailles, des relevailles qui étaient aussi associées notamment la religion, avec le retour, au moment où on peut retourner enfin à l'église aussi, oui. Dans la société, mais qui symbolisait aussi de sortir de chez soi, parce que là on parle aussi d'un moment de repos, et donc on est davantage voilà, dans notre petit nid, dans notre petit cocon. Mais dans le vocabulaire commun, on parle beaucoup de post-partum, de post-natal, d'après-accouchement. Et du coup, en fait, tout ça, ça ne veut dire qu'après un moment, comme si on ne considérait pas vraiment on dit à partir du moment où les choses ne sont pas pleinement nommées, elles peuvent pas être pleinement reconnues. Et nous, c'est ça qui nous parlait aussi dans cette nomination du mois d'or qui est aussi inspirée hein, de la culture chinoise. Voilà, avec le zhuogezi, mais il y a des termes autour du mois d'or. C'est pas une traduction littérale, mais ça fait vraiment allusion à ces cultures de médecine chinoise autour du postpartum. Il y a aussi Ingrid Bayo avec qui on collabore beaucoup, hein, qui fait partie, qui est aussi intervenante dans nos formations du mois d'or, qui nomme notamment le terme de dégestation aussi et de quatrième trimestre. Donc ouais. C'est vraiment comment on prend en compte pleinement cette période comme faisant partie du processus. Non, c'est pas parce qu'on est accouché il y a 24 heures que ça y est, la vie reprend son cours.
Je peux t'en faire une tarte pop pour Tata Janine qui vient voir ça. Bébé.
Je me mets en action et tout se dirige vers le bébé et nous c'est vraiment ça hein, avec le mois d'or qu'on met en avant, qui nous tient à cœur, c'est comment on vient replacer le regard et replacer le soutien avec cette observation que bien pendant la grossesse il y a quand même une grande attention qui est portée à la femme enceinte, il y a quelque chose de fort hein, même en marchant dans la rue les regards, le soutien, on prend comment ça va, comment tu vis ta grossesse, et où nombreuses sont les femmes qui ont pu être désillusionnées et déçues et voir vraiment atteinte hein, dans leurs émotions aussi, de sentir qu'une fois que le bébé est là, mais en fait,
je n'existe plus.
Voilà, le bébé, il est mignon, je veux prendre le bébé. Ouais. Et comment il va, le bébé?
En fait, on n'était qu'un vaisseau, quoi.
Oui, et y a souvent une sensation de solitude ou d'être abandonné ou déconsidéré, alors qu'on est quand même dans la phase de notre vie, enfin dans une des phases de notre vie, on vit des émotions vraiment au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau identitaire, au niveau physique aussi, c'est quand même d'une intensité. Et on a besoin à ce moment-là, c'est une des périodes de notre vie où on a le plus besoin d'être soutenu, on a le plus besoin de nous demander mais comment tu te sens, quoi? Comment tu vas? Comment tu te sens? Comment tu vis tout ça? Et où les questions ne sont plus forcément là, ou alors sont abrégées. Comment ça va? Oh bah super, bon c'était avec ou sans péri, voilà. Voix basse, césarienne, c'est bon, t'as survécu, bébé va bien, bon bah super, c'est fini. Ah bah non en fait.
Là, tu parles beaucoup quand même.
Oui c'est ça, oui, ou alors du coup, c'est ça, les commentaires, ça, on s'interroge beaucoup sur, on s'intéresse beaucoup sur le portage, le sommeil, le rapport aux pleurs, mais vraiment, tout le temps, voilà. Tout le temps.
Mais c'est autour du bébé et de dans quel cadre on est, mais pas forcément de comment ça va, quoi, vraiment.
Mais c'est ça, ouais. Et les femmes ont profondément besoin, les femmes et les couples aussi, hein, d'ailleurs, les papas aussi, qu'on sente comment ils font. Donc voilà, en tout cas, le mois d'or, c'est vraiment cette phase du postpartum immédiat qui vient s'inclure dans un postpartum plus large, parce que finalement, on parle aussi du postpartum bien au-delà des 40 jours, mais oui. Ces premiers mois, ces 40 premiers jours, ils sont très précieux et ils sont c'est important d'en prendre soin, de les préparer aussi en amont. Voilà.
C'est un tissage. Voilà, c'est assez déterminant pour beaucoup de choses quand même finalement. Mais c'est hyper important qu'on en parle parce que autant on en a besoin, autant avoir conscience qu'on en a besoin, c'est encore une autre affaire. Et là je bifurque vraiment sur du perso, mais moi j'ai jamais entendu parler de mois d'or pour mes deux premières. Tu me demandais comment j'allais à J+2, mais tout va bien. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes, ma petite dame, et je peux aller faire des courses, hein, y a pas de problème. Mais d'avoir conscience, en fait, que c'est une vraie récupération. Toute l'énergie que j'ai donnée pendant ma grossesse, en accouchant, toute l'énergie que ça me demande de tisser le lien avec ce bébé, de le nourrir, et de tout ce qui m'attend encore derrière, en fait, je le voyais même pas, quoi. Toi, tu remarques ça?
Oui, ça peut. Ça peut, puis il y a une vraie... Il y a plein de réactions différentes, mais il y a aussi comme une vraie fierté à nommer à partir de quand on a pu aller marcher toute seule, à partir de quand on a pu retourner faire ses courses, c'est génial. Moi, c'est super compétente, j'ai été faire mes courses dès le retour à la maison, et il y a une satisfaction autour de ça parce qu'on a des dictates autour du fait d'aller vite. On a des dictates au niveau de la performance parce qu'il y a une survalorisation de ce qui est au niveau de l'action. De ce qui est au niveau de la performance, de ce qui est démontré. Donc on va avoir cette fierté d'être allé dans un supermarché. Super. et je comprends, parce qu'en même temps on a besoin de retrouver effectivement son corps, son indépendance. Parfois aller faire les courses seule, c'est un vrai moment de repos,
hein. Aussi,
voilà, quand on est dans ce bain là d'émulation post-natale. Et en même temps on oublie complètement de considérer à quel point... Mais le corps, il vient de vivre un des moments les plus énormes de toute sa vie, qu'on soit dans un accouchement par voie basse, sans intervention physiologique complètement, ou avec des interventions. Et alors, quand on a une césarienne, n'en parlons même pas. Ça aussi, c'est complètement invisibilisé. Une césarienne n'est pas du tout, enfin, entre guillemets, hein, considérée, mais en tout cas de manière commune, comme ça, comme une opération. Non, t'as eu un accouchement césarienne, mais... Il n'y aurait pas à prendre des semaines, à prendre le temps de se relever, de ne pas avoir de douleur. Ben non, c'est normal, ça fait partie de l'accouchement.
Si tu rajoutes 2 jours à la mater, c'est bon, quoi.
Mais c'est énorme, magnifique. Et c'est une des opérations, si ce n'est l'opération, qui est complètement invisibilisée autour du post-opératoire. Et même quand on n'a pas eu d'intervention, que le corps ait traversé cet accouchement-là, il a besoin fondamentalement d'un profond repos, au risque. Et là, c'est pas à prendre non plus comme une menace, hein. Mais il y a quand même des enjeux sur le plan de la santé globale de la femme, sur le plan gynécologique aussi. Bernadette de Gasquet, avec qui on collabore beaucoup aussi, hein, qui a vraiment mis en avant tout ce qui est autour de la sphère périnéale et de la santé gynécologique de la femme, et de l'impact de la manière dont aura été accompagnée la grossesse, mais aussi l'accouchement et vraiment le postpartum, avec cette idée de comment on vient préserver son corps en postpartum. Souvent, y a la maternité, puis après il y a ce rendez-vous de point de rééducation postnatale, à partir de 6, 8, 10 semaines après l'accouchement, et on se dit, entre les deux,
No man's land.
En fait, le périnée n'existe pas. Bon, effectivement, parfois, on se rappelle plus qu'il existe parce qu'on le sent plus complètement. Mais c'est comment, là, on passe complètement à côté de quelque chose. Parce que avant de penser, c'est pas le moment d'aller faire du sport, d'aller de rééduquer ou quoi que ce soit, mais comment on vient préserver, comment on vient se préserver aussi. Et ça se joue dans les premières semaines.
Oui, donc c'est important de le faire exister, en fait, de bien se dire que ça va pas être totalement facile, instinctif, et surtout qu'on a besoin de mettre en place des trucs concrets. Donc une fois qu'on comprend, en fait, qu'on a besoin, c'est une vraie récupération, ça viendrait pas à l'idée des agents et des équipes, je sais pas moi, Thomas Pesquet, il revient sur Terre, lui dire « demain tu vas à Leclerc par contre,
c'est ça.
Tu vas faire tes courses ». Non, il a une vraie récup.
Ouais.
Nous, on a quand même été chercher un être qui n'existait pas 9 mois avant, on lui a donné... notre corps pour pouvoir s'épanouir, on l'a mis au monde. Et en plus, on est en train de tisser un lien avec cet être qui est totalement dépendant quand même. Donc on a déjà une grande fuite d'énergie, même si, attention, c'est très beau, on est d'accord, mais on a donné beaucoup, on continue de donner, et on devrait retourner à la vie sociale,
ça, c'est,
normalement.
Ça, c'est énorme. Je me rappelle le jour de mon accouchement, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, c'est le moment de ma vie où j'aurais le plus besoin de récupérer, mais en mode solo, en fait. En mode de dormir, de me faire masser. J'avais des courbatures.
Oui, c'était par camion qui était passé.
Mais complètement. Complètement. Et j'avais un accouchement physio, mais où je m'étais tellement suspendue qu'après, j'arrivais plus à déplier les bras.
Une grosse séance de sport.
C'était intense. C'était magnifique, mais c'était intense. Du coup, je me dis, mais là, en fait, c'est le moment de ma vie où j'aurais le plus besoin de repos, mais... mais j'ai un petit tête de 50 cm à m'occuper, en fait. Ça, c'était déjà mais immense, en fait, cette double, cette réalité, puis ce besoin en même temps. Et ok, mais comment je fais avec tout ça, en fait? Et alors, ensuite, quand on parle du quotidien, de tout ce qu'il y a autour, mais n'en parlons même pas. Mais ah, déjà, rien que ça, c'est une réalité qui est énorme.
C'est déjà énorme.
C'est déjà énorme. Donc après, tout le reste, mais...
Ma pile de linge, le sol, ah, là,
c'est
la
loin.
Bouffe.
C'est loin. C'est loin. Ouais. C'est loin. Et en même temps, c'est tellement près. Et ça envahit complètement la maison. Et on a beaucoup de pression autour de ça. On est dans une culture qui a désappris à fonctionner aussi en collectif, en communauté, et où on croit que tout le monde l'a fait, qu'on va s'en charger tout seul et qu'on est chacun chez soi, dans notre petite famille, que ce soit en couple, que ce soit en monoparentalité, et qu'on est censé gérer ça tout seul. Alors que non, en fait. C'est comment on vient remettre de la communauté, de l'entraide, des cercles. Hein, on parle des cercles de bonnes étoiles, hein, beaucoup dans le mois d'or. Ça se fait avec notre entourage proche, ça se fait avec des professionnels. Ça se crée aussi, parce qu'aujourd'hui, hein, on est dans des géographies qui sont très distanciées, on déménage, on est pris dans l'intensité de nos vies. Et en même temps, parfois, on sous-estime les nouvelles ressources qui peuvent s'activer. Comment on peut oser un peu plus les uns vers les autres, nommer à un moment donné des besoins partagés dans un podcast qu'on a fait ensemble, que tu as fait aussi sur notre podcast du mois d'or. Tu as parlé à un moment donné de comment on vient, je me rappelle plus exactement ce que tu as dit à ce moment-là. En tout cas, l'idée, c'est d'oser... Oui, c'est ça. Tu as dit à un moment donné, en fait, chacun vit une problématique, des vécus de son côté. Mais en fait, venez, allez-y, on va en parler ensemble et on va se rendre compte qu'en fait, on traverse tout ça. Bien sûr, pas de manière identique, chacun à notre manière. Mais en fait, parlons-en ensemble parce qu'en fait, on a tous la même problématique. Moi, c'est des choses que je vois beaucoup. J'anime des groupes sur Saint-Nazaire et sur Nantes, notamment des groupes de parole de femmes en postpartum. Et je vois à chaque fois, enfin pour moi c'est une vraie merveille de voir à la fin, mais cette profonde gratitude qu'elles ont de s'y retrouver ensemble et de s'être écoutées, d'avoir pu poser des mots, d'avoir pu oser en fait dire vraiment comment elles sentent, comment elles vivent les choses, qu'est-ce qui leur pose question, qu'est-ce qui leur pose problématique, qu'est-ce qui au contraire les nourrit et les émerveille aussi. Et elles ont toutes des vécus qui sont singuliers aussi. On n'est pas dans quelque chose d'homogène non plus. Mais ce bien-être d'avoir entendu, de se dire « Mais en fait, je ne suis pas toute seule.
Eh oui.
Je ne suis pas toute seule et il y en a d'autres qui sont comme moi. Et on est ensemble, en fait. » Et même si c'est la galère, et ce n'est pas toujours la galère, j'insiste, mais même si c'est la galère, on est ensemble. Et rien que ça, c'est soulageant. Cet isolement qui est vraiment le cas dans nos sociétés, on en parlait avant de faire le podcast aussi, mais... il peut y avoir une diabolisation, une dramatisation autour du postpartum. Ça y est, avant on n'en parlait pas du tout, donc il y avait une autre problématique, c'était idéalisé.
On évangélisait.
Voilà, on évangélisait. Nous, quand on a sorti le livre en 2019 du mois d'or, et ensuite le cahier d'exercice, on en parlait encore très peu. Oui. Il y avait quelques éléments, notamment Bernadette Gasquet aussi, qui avait déjà son travail qui était en place, mais on en parlait très très peu. Donc il était question de libérer la parole. Mais depuis, il y a eu notamment le hashtag Mon Postpartum, il y a beaucoup d'ouvrages, je ne sais pas combien d'ouvrages existent aujourd'hui sur le postpartum. Nous, à l'époque, on a écrit le livre parce qu'on s'est rendu compte, et moi-même dans ma pratique professionnelle de psychologue et dans ma vie de maman, qu'en fait, il n'y avait pas de ressources. Enfin, moi, quand j'ai envie de me former, et puis de moi-même, j'étais enceinte, je m'intéressais beaucoup, une grande chercheuse dans l'appétence de plein de connaissances et autour du postpartum, je me suis dit, mais mince, il n'y a rien. C'est quoi? Et même moi, ce qu'on m'avait transmis, parce que moi, je viens d'une famille où il y avait cette culture du postpartum, il y avait cette culture du mois d'or déjà. Pour mes parents. Donc, pour moi, il y avait plein de choses naturelles. Je me suis dit, mais c'est quand même fou. Parce que moi, on m'a raconté tout ça, mais je trouve aucun livre même où on en parle. Donc, c'est un peu de ça.
Ah oui, d'accord. Il y avait comme un truc, mais je comprends pas.
Mais c'est dissonant. Il y a un bug, en fait. Non, on a oublié une partie du chapitre de nos vies d'humains. C'est pas abordé. Donc, le livre du mois d'or est né autour de ça.
Reconnecter, quoi.
Ben complètement, ben en fait juste venir, il faut à un moment donné qu'il y en ait qui en parle, qui que ce soit en fait, mais il faut qu'il y en ait qui en parle. Bon ben il n'y en a pas qui en parle, ben hop c'est parti.
Allons
avec Céline, c'est ça, on s'est lancé là-dedans. Mais depuis il y en a beaucoup qui en parlent, mais il y a une dramatisation un petit peu de ça y est le postpartum.
Ça va être compliqué,
voire parce qu'il y a des confusions, on entend des fois, j'ai fait un postpartum. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais bien sûr que tu as fait un postpartum,
tu as des bébés, tu vas faire un postpartum, c'est logique.
Et il y a une confusion avec les dépressions postpartum, et ça montre à quel point aussi aussi tout de suite on associe ça.
Je vais avoir un bébé, je vais faire une dépression quoi.
Mais oui, et ça fait peur, ça donne pas du tout envie d'en
entendre
parler.
Ah bah oui, effectivement.
On est enceinte, là ça y est, on parle du postpartum et tout de suite c'est grave.
Oui.
Et on n'a pas du tout envie d'y aller. Et ça pour moi c'est un petit peu le piège de se dire ok, on vient nommer, ok, qu'est-ce qu'il y a dans les maux du corps, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme enjeu aussi au niveau psycho-émotionnel, quels sont les défis du quotidien qui sont complexes, mais ça ne veut pas dire que ça va être...
Non, c'est ça. Ça se parle, ouais. Ouais, bah en fait, moi, déjà, quand je fais des ateliers pour préparer le postpartum, je commence souvent par le papa, et je demande, pour toi, c'est quoi le postpartum?
Ouais.
Alors souvent, c'est rien, je ne comprends pas ce mot,
oui.
Ou alors, ça va être la dépression, quoi. Tu vois, c'est marrant, c'est pas drôle, hein, avec le recul, mais...
Non, mais c'est étonnant à quel point...
Les images qu'on peut avoir, et parfois, j'ai des hommes qui me disent, post-partum, post-accouchement, en fait, c'est une période de vie qui a ses spécificités, c'est neutre émotionnellement, c'est-à-dire que c'est ni bien ni mal, c'est simplement intense.
Et puis délicat.
Et voilà, c'est une période, on est vulnérable à ce moment-là. Et de bien comprendre ce qu'on va traverser à coup sûr, ce qu'on va peut-être traverser, mais peut-être pas, donc au moins savoir que ça existe, cas échéance, va accompagner si ça existe pour nous, typiquement la césarienne, et la suite, les sutures, etc. Mais de bien comprendre les enjeux à ce moment-là, ça permet déjà de diminuer le risque qu'on bascule vers ce truc que tu viens de nommer. Parce que moi, ce que j'aime bien partager, c'est que c'est pas le postpartum qui est dur à vivre, c'est l'époque d'aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas amené à bien vivre nos postpartums si on va pas un peu creuser le sujet. D'une part, par rapport à ce que tu nommes de ce côté très individualiste où on ne sait plus demander d'aide, alors qu'on a des neurones miroirs et qu'on est fait pour ça aussi, de s'entraider, mais on ne fonctionne plus comme ça. On vit à deux, voire seul, à rembourser des crédits pour des maisons qui nous coûtent les yeux de la tête et devoir bosser à temps plein et pas faire de pause. Et bon, j'ai un bébé dans l'histoire, mais il faut vite que je continue à faire fonctionner le truc, quoi. Donc, pas facile de faire une vraie pause et vivre slow, c'est pas vraiment comme ça qu'on est éduqué. On est éduqué à la compétitivité et pas on collabore. Si je demande de l'aide, enfin, moi je me souviens, demander de l'aide, c'était horrible, horrible, je vais être redevable. La façon dont on
était élevée. Je suis redevable, je suis incompétente, qu'est-ce que ça vient dire de moi?
Ouais, alors que ma mère, elle se vante, enfin, c'est pas ma mère, hein, mais elle se vante qu'au bout de 3 jours après sa césarienne, elle galopait comme un petit poulain. Donc qu'est-ce qu'elle va penser si je lui demande de l'aide? Donc ça demande un peu à reprendre la vision qu'on a aussi du lien. On va un petit peu questionner tout ça au-delà de qu'est-ce que c'est que les saignements postpartum, et puis au-delà de ça, oui, tu vas saigner, effectivement. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Peut-être que pour toi c'est dur, et peut-être que t'en as rien à cirer, et dans ce cas on passe, je t'explique un peu comment ça marche, et voilà. Mais en soi, c'est pas une période qui est grave, c'est une période particulière, et si on nomme pas cette particularité, ça risque d'être compliqué, parce qu'on t'aura pas tous les outils, quoi. Et puis le truc le plus dur dans cette période-là, c'est de demander de l'aide. Parce que t'es tellement déjà tourné vers un être autre que toi, qui a tout le temps besoin de toi, que déjà juste se laver, mission accomplie, si tu as réussi à te laver avant 15h, alors se dire, ok, j'ai besoin d'aide parce que là, ça tiraille un peu sur mon sein, mais en même temps, c'est pas trop la cata, et puis là, en fait, il a besoin de moi, si tu as déjà des choses qui sont prêtes avant, et des personnes pour t'épauler autour, c'est carrément plus facile, quoi.
Mais ça change tout, parce qu'en fait, l'énergie d'avoir déjà à prendre conscience que là, on a besoin d'aide, en fait, que là, on est en difficulté. Ensuite, ok, mais j'aurais besoin de quoi? En fait, parce qu'on n'a même plus en fait cette gymnastique mentale d'identifier, mais par quel bout on pourrait. Des fois, c'est tellement global, c'est tellement dans toutes les facettes de notre vie. Donc, on a désappris à identifier nos propres besoins déjà. Donc ça, c'est un gros travail si on l'a pas fait avant. Si ça fait pas partie de notre chemin de vie personnelle et ensuite de couple dans notre parcours de désir d'enfant, de grossesse, de rien qui est trop clair avec nos propres émotions, nos propres besoins. Donc déjà, ça, si on n'a pas ça, là, il y a tout qui se mélange de partout. Et même quand on a ça à la base, là, c'est vrai que parfois, le flou complet arrive et qu'on est aussi dans ce flottement un peu postpartumien, où même si c'est ni bien ni mal, il y a quelque chose, même au niveau cérébral.
Une évolution.
Complet. On est vraiment dans une phase à part entière. Et tout ça demande et de l'énergie, et de la stratégie, de la rationalité, de l'organisation, ce qui n'est pas un point fort à cette période-là, et d'autant plus quand on est épuisé, quand on n'a pas dormi de la nuit, quand on n'en a pas parlé avec nos proches avant. Parce que s'il faut venir, ok, mais alors qui c'est qui pourrait nous aider? Ah oui, mais du coup, cette personne ne sait pas comment on fonctionne. On n'a pas parlé avant de, ok, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous pendant le postpartum. S'il faut faire tout ça, alors qu'en fait... on n'est pas en 15 jours en plein scratch. Ouais. on n'a pas dormi.
On est dans le tourbillon, quoi.
Et puis on est très... tu parlais de vulnérabilité, mais c'est vraiment ça. Et cette vulnérabilité, elle nous met dans une porosité et une sensibilité à tout ce qui va être dit, même aux moindres présences, où effectivement, c'est une période, ça fait partie d'une des grosses problématiques du postpartum. Comment, à ce moment-là, il y a beaucoup de conseils, certes, et aussi de maladresse dans des jugements, dans des remarques qui viennent vraiment d'une période où tout le monde se permet. C'est comme si l'environnement social, tout d'un coup, vu que c'est un nouveau petit être humain qui arrive, là, c'est le côté qui pourrait être positif de la communauté. Voilà, il fait partie de la communauté, à part que, en fait, on ne prend pas forcément soin de la mère et on vient s'intéresser aux petits parce que là, on a le droit, en fait. Il y a quelque chose du social qui vient s'immiscer dans l'intimité au moment où notre besoin d'intimité est encore plus grand et où notre vulnérabilité est encore plus sensible. Et du coup, parfois, même si une remarque dans un autre étape de notre vie,
ça ne serait
même pas entendu, en fait, ce que cousine machin ou belle-maman aurait dit... Oh, là, à ce moment-là, ça va nous effondrer complètement, nous piquer
nous
très profondément. Voilà. Donc, il y a à la fois plus de présence, de commentaires, de conseils, quoi que ce soit, mais il y a aussi cette vulnérabilité, cette porosité qui est plus grande et qui marque. Hein. Moi, je vois dans les accompagnements, parfois, 2-3 ans après, mais je me rappelle. Le jour où j'étais là, la posée dans le canapé, et où j'avais mal à mon sein, et où bébé pleurait, et où ma mère m'a dit ça, où ma copine m'a dit ça. C'était tellement violent dans ces moments-là.
C'est la goutte d'eau de cette non-conscience aussi des besoins.
Mais c'est ça.
C'est vraiment la petite remarque qui fait que pouf, ça explose, quoi.
Complètement. Et d'où l'intérêt que tout le monde aussi soit... sensibiliser, nous on parle beaucoup de comment les femmes et les couples peuvent être sensibilisés à ça, se préparer en postpartum, mais comment aussi le communiquer aux entourages, les familles elles-mêmes, mais nous aussi notre responsabilité, tu vois, en tant que pro, en tant que citoyen, dire c'est vraiment finalement un engagement citoyen. Enfin, je veux dire, les familles, c'est quand même les nouveaux aides qui arrivent, familles qui sont venues, c'est un peu la base,
la base de présent
de l'avenir. Exactement, de préservation aussi de l'espèce, mais qui n'est pas que du côté organique, mais vraiment d'une préservation d'une espèce épanouie, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, qui voilà.
Pas survivre, mais bien vivre.
Oui, exactement, exactement. Et ça, c'est comment ils communiquent à leur entourage, aux grands-parents. Nous, on a créé aussi un kit, justement, pour les parents et les grands-parents.
Ah.
Où, du coup, en fait, il y a des petites propositions. Il y a un livret que les grands-parents peuvent lire. Parce que souvent, on a le bouquin, mais il fait 400 pages. Donc, avant que parfois, mamie machin, tout ça
vienne. Très volontaire.
Ouais, il faut vraiment être impliqué. Et c'est magnifique quand c'est le cas. Mais là, voilà, il y a vraiment la version synthétique, adressée aux grands-parents pour qu'eux aussi, parce que mine de rien, ils vivent aussi des choses fortes pendant cette période-là. Et c'est vraiment une période où à la fois, ça peut être une aventure magnifique ensemble et en même temps, où surgissent aussi des incompréhensions, des conflits, un écart entre ce qui est proposé et les véritables besoins ou de la susceptibilité de la part des grands-parents aussi. Hein, parce que, mais comment ça? Mais du coup, vous voulez pas qu'on vienne faire des visites? Bah oui, mais on a envie de prendre soin.
Oui.
Donc du coup, on propose aussi ça et je trouve ça... Vraiment, il y a beaucoup... De famille que j'ai entendu et c'est ça aussi qui fait évoluer hein, parce que voilà, comme toi je pense qu'on part tous des besoins puis finalement ça fait évoluer aussi ce qu'on a envie de proposer au
tout
monde.
Tout à fait.
Et c'est ok, d'abord la femme elle a besoin de prendre conscience de ce qu'elle va vivre, de comment mettre les conditions favorables à ça pour que justement ça soit le mieux vécu possible, parce que c'est possible. Et ensuite, ok, le couple, ok, on se prépare en couple, et puis la famille, les proches, ah oui, mais en fait, les grands-parents, s'il y a des couples qui sont éclairés, mais qu'autour...
Ça suit pas.
Bah c'est ça, qui se sentent complètement... Parce qu'on parlait de oser demander, c'est une chose, mais il y en a beaucoup aussi qui osent demander et qui sont pas reçus en face.
Oui.
Et ça, c'est comment on ose demander, mais déjà aussi en n'étant pas dans une injonction... Et une attente immense que oui, il y a de l'aide qui arrive. Parce que l'aide, elle va peut-être pas arriver là où on
croit. Oui, et parfois, ce qui est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, c'est aussi se rendre compte qu'on n'a pas.
Oui.
le soutien.
Et ça, c'est compliqué.
Bah, bien sûr, pour ça, soi.
Ben oui.
C'est pas le moment, peut-être aussi.
Ça peut créer des tristesses et des... Oui, parce que les gens sont loin ou parce que finalement les gens ne sont pas dans une présence.
C'est ça.
Voilà, réelle. Et en même temps, c'est aussi une occasion. Moi, je vois beaucoup de familles, et ça a été le cas moi aussi dans ma parentalité, où il y a des nouvelles relations.
De recréer des
complètement,
liens.
Complètement. Ouais. À qui il y a des valeurs communes, avec qui il y a une disponibilité, mais ça peut être parfois des voisins, quand on a des aînés de d'autres parents de l'école, de comment on élargit aussi notre vision. C'est pas que. Les grands-parents, les amis d'enfance.
C'est ça.
Voilà, ça peut
être plus vaste. Un maillage un peu plus vaste.
Ouais.
Ouais. Bah, c'est une ressource, je mettrai le lien dans l'épisode, ce kit.
Ouais, plaisir, pour les grands-parents.
Je vais recenser cela. Et si les personnes scrollent deux épisodes auparavant, j'ai créé un audio de 3 minutes à envoyer à la famille ou aux proches pour expliquer, en fait.
C'est
vraiment une petite ressource supplémentaire parce que j'ai pas mal cette demande-là, mais je sais pas trop comment aborder le sujet.
Ouais.
Donc c'est moi qui parle, mais c'est au nom de nous qui allons accueillir notre bébé. Et c'est un audio vraiment rapide, synthétique, où j'explique pour les personnes qui veulent vivre ce postpartum, hein, c'est qu'en fait, on a besoin de consolider le lien dans notre famille, de le créer, on a besoin de disponibilité, de temps aussi pour récupérer de toute cette épopée de la grossesse, de l'accouchement, et qu'à ce titre, on a des besoins de temps et de vivre dans un petit cocon, mais que vous êtes très important pour nous.
Ouais.
Donc, on a besoin de discuter avec vous de comment on réintroduit le lien avec les personnes autour, une fois qu'on se sent solide pour ça, comment vous pouvez nous accompagner à votre échelle à vous, soit cuisiner, soit ou n'importe quoi d'autre, mais qui peuvent être utiles et qui ne vont pas vous demander non plus de faire des choses que vous n'êtes pas à l'aise de faire. Et du coup, ça remet un peu l'église au milieu du village sans dire c'est contre vous, on ne veut pas que vous veniez, c'est on a des besoins et ces besoins, certes, ils viennent un peu en choc avec notre culture, mais on a envie d'aller vers ces besoins-là tout en vous introduisant de la bonne façon pour pas qu'il y ait non plus des rancœurs et des malaises.
Oui.
Et voilà, c'est un audio de 3 minutes, très flash.
T'as réussi à faire ça en 3 minutes.
Ouais.
Mais c'est capital parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de souffrances relationnelles qui s'activent dans ces moments-là.
Oui.
Parce que si ça n'a pas été mis en sens, ça c'est très précieux là ce que tu dis. C'est, on vient comprendre le pourquoi en fait. Qu'est-ce qui fait sens pour nous, sur quoi de quoi on a envie de prendre soin pendant cette période. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on vous rejette en fait. Et comment les personnes peuvent entendre ça change tout.
Oui.
Ça change tout et c'est bon pour tout le monde en fait. C'est bon pour l'entourage, c'est bon pour la petite famille, c'est bon pour les relations. Sur le moment, mais à long terme, parce que ça marque aussi hein, les histoires.
C'est ça.
De...
Tout à fait. Merci Marie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter à l'audience d'Un Temps pour Naître qui, pour la plupart, va découvrir ou redécouvrir cette phase postpartum? Peut-être quand il y a déjà eu un postpartum et qu'on essaye de réécrire l'histoire, tu as peut-être des échos de. Voilà, de j'ai plus envie de revivre le même postpartum. Ça te parle?
Beaucoup. Il y a beaucoup de lectrices ou aussi moi dans mes accompagnements au cabinet qui viennent justement parce qu'il y a eu cette expérience-là qui a été intense, qui a été parfois magnifique, mais aussi parfois un ébranlement.
Douloureuse, ouais.
Douloureuse. Et où du coup il y a une conscience de l'importance de se faire accompagner, de prendre soin, de se préparer. Et certes, dans. Quelque part les connaissances, les informations, mais aussi très concrètement. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une époque où on parle beaucoup au niveau cérébral, de la raison, donc on accumule quand même de plus en plus de connaissances, mais en fait, vraiment se préparer au postpartum, ça va être ok, comment bien sûr je m'informe, mais je m'informe pour mettre en application et comment cette préparation, elle se fait pas que dans les idées, elle se fait jusque dans la cuisine pour préparer,
avec tes mains,
Comment on organise différemment la maison, comment on met des petites listes sur les frigos, génial. Des indispensables, pour parce qu'on ne se rappelle plus en fait de ce qu'il faut acheter, comment on se simplifie la vie, mais vraiment au niveau opérationnel. Et c'est vrai que moi, ça va être aussi ma façon d'accompagner, qui n'est peut-être pas très psychologue classique, mais prendre en compte ça en fait, cette réalité quotidienne qui est on ne peut plus palpable, qui nous saute au visage.
Mais c'est ça qui va faire que la vie, elle est faite de ça. Quoi.
Exactement. Donc redescendre de la la tête à l'organisationnel et aussi dans notre chair, dans notre corporalité, dans notre sensorialité, parce que le postpartum, c'est aussi fait de ça, dans notre cœur aussi, bien évidemment.
Oui, bien sûr, mais le postpartum, mais... c'est un marche-pied pour surélever ses pieds, c'est pas que des concepts, quoi. C'est du vrai, du...
Ouais.
Ça descend dans le concret, quoi.
C'est ça, c'est ça. Donc, on met en application et surtout, c'est pas quelque chose d'un dogme ou d'un modèle. Ça, je le répète beaucoup, mais parce que j'ai tellement entendu ça que tout d'un coup, ça y est.
J'ai raté mon postpartum.
Voilà, c'est un échec total parce que j'ai pas fait tout ce qui avait été nommé dans le livre, le mois d'or et tout ça. Et du coup, pour nous, c'est très compliqué d'entendre ça parce que c'est comme si on passe d'un diktat à un autre.
Ouais.
Et du coup, attention à ça. Et ça, c'est super dangereux parce qu'il y a soit de la culpabilité, soit une grande frustration. Ou une tristesse de ne pas avoir vécu ça, mais c'est comment ou alors du coup, mais non, mais moi ça me parle pas en fait, c'est pas pour moi, mais en fait à un moment donné, à partir du moment où on accouche à partir du moment où il y a une ce corps a besoin de cette dégestation, de ce quatrième trimestre, donc c'est comment chacun vient aussi se l'approprier, être acteur de ça et personnaliser et le rendre adaptable à sa propre vie aussi, à ses propres circonstances. Voilà.
C'est pas un objectif à atteindre, c'est des ressources pour nous permettre de se sentir le mieux possible.
Complètement.
Voilà, que ce soit sur le plan de l'alimentation, etc. C'est pas un dogme, c'est des clés qu'on partage. Et puis bah, parfois les clés, vous allez les adapter, et puis une bonne vieille tartiflette vous fera super plaisir. Ok, c'est pas hyper économe au niveau énergie, mais en fait c'est ça qui vous fera du bien, et peut-être que le lendemain le bouillon sera parfait, mais c'est voilà, c'est des grandes lignes qui viennent réécrire un peu la façon dont on a été éduqué au postpartum, et après à chacun, chacune, en fonction de sa situation, de son histoire, de sa culture, de ses besoins, quoi, de réadapter. Et puis parfois on a besoin d'un truc à J10, et puis 2 mois après, c'est complètement autre chose. Ah là là, bah ouais, j'ai envie de me faire une grande balade. Très bien, balade-toi, mais écoute-toi, quoi.
Ouais, et ça c'est important parce que dès qu'on vient figer, dès qu'on a une vision très précise, dans tous les cas, voilà, de la même manière, on en parle pour la naissance, mais pour le postpartum, c'est pareil. Donc, on met en base des conditions favorables, on va vers quelque chose, mais après, on s'adapte.
Exactement.
On fait avec la réalité, on fait avec notre réalité. Puis un postpartum, c'en est pas un autre. Hein. Pour celles-là, on parlait de qui ont eu des difficultés parfois au premier bébé. C'est pas parce que on a eu des difficultés, voire une dépression postnatale pour un premier, que ça va se reproduire aussi, parce que là, il peut y avoir beaucoup d'anxiété autour de ça. Par contre, comment je prends ça en compte et comment je viens créer un étayage autour de moi, d'autres ressources pour que, ok, cette fois-ci, soit j'ai des conditions favorables qui fait qu'à un moment donné, eh bien, les facteurs vont moins être présents de mise en difficulté, ou du coup, hop, et puis ça va bien se passer, tout ça. Soit, ça va peut-être arriver quand même, mais en ayant les ressources, en ayant l'étayage autour de moi, je vais traverser ma tempête, mais sans être seule.
C'est ça.
Et ça change tout. Et du coup, ça s'installera peut-être moins, ça sera peut-être moins profond, mais en tout cas, je serai entourée. Et ça, c'est fort. Donc, c'est comment, comment les femmes, les couples, mais aussi les familles, la société aussi, nous, en tant que professionnels, nous, on forme beaucoup les pros avec le mois d'or, les accompagnants postnatales, mais de base, on forme beaucoup des gens qui sont déjà professionnels, donc sages-femmes, les ostéos, les accompagnants périnatales, les sophros, les tout, les doulas, tout, médical, paramédical, et vraiment tout l'écosystème, le maillage autour des familles, pour que justement, on ait cette culture commune autour du postpartum et qu'on crée aussi une vraie, véritable cohérence et cohésion enfin pour éviter des confusions dans lesquelles on peut sinon projeter les familles, et pour être le plus soutenant possible et le plus en lien. Je pense qu'on a aussi un intérêt en tant que professionnel à créer du lien, et d'ailleurs c'est ce qui fait que je suis aussi heureuse de te rencontrer aujourd'hui Edwige, en vrai ça c'est une complémentarité des pratiques, et voilà, on parlait tout à l'heure des cercles de bonnes étoiles, mais aussi, en tant que professionnel, on peut créer ces cercles-là, et là, on changera aussi vraiment les choses de l'intérieur ensemble.
Oui, tout à fait. Puis c'est indispensable de travailler en réseau avec d'autres professionnels qui sont dans cette conscience. Parce que, comme tu le dis, on n'est pas des pièces détachées, puis une personne qui accompagne ne peut pas tout apporter. Et c'est vraiment tout un tissage, quoi.
Ah bah complètement. C'est un leurre où on se met en posture dans ces cas-là. Hein.
Sauveur.
On en parlait, le fameux sauveur. C'est dangereux. Il n'est pas question de ça. Et c'est comment on reconnaît cette complémentarité. Hein. On parlait aussi à quel point on est global. Moi, je ne suis pas sage-femme. je suis psychologue. Mais entre guillemets, je ne suis pas coincée dans ma posture de psychologue non plus, parce que je m'ouvre en fait à connaître ces autres notions, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qui se passe pour l'allaitement, qu'est-ce qui se passe pour le sommeil. Et c'est dans cette vision globale-là qu'on sera aussi au plus près d'accueillir en fait les femmes, les couples, les familles dans tout ce qu'ils traversent. Parce que même si c'est un moment où ils ont toutes les ressources en eux et qu'ils ont vraiment à le vivre à leur manière, et bien se sentir quand même vraiment soutenu, pleinement soutenu, et pouvoir être vrai dans tout ce qu'ils vivent, ça peut vraiment tout changer, je trouve.
Tout à fait.
Du vécu intérieur.
D'autant que c'est une période qui... moi, j'aime bien l'image des poupées russes où on vient rajouter une poupée, mais les autres, à l'intérieur, elles sont toujours là et parfois, elles ont besoin d'exister et de dire, ben, par exemple, l'enfant intérieur, quoi, toi qui es psy, ça doit te parler, de « et moi alors ?» Toi, tu maternes, et moi alors ? Qu'est-ce que j'ai reçu, pas reçu ? Donc, c'est une période où on a l'impression parfois de faire des retours en arrière, mais non, c'est juste qu'on on refait exister de la matière qui est un peu endormie. Donc, on est vulnérable, en fait, mais pas parce qu'on est fragile, parce qu'il y a une énorme puissance qui vient s'éveiller là. Et de la façon dont on va vivre cette puissance-là, bah, soit on peut vite se saboter et se faire beaucoup de mal, ou on peut recevoir beaucoup de mal, pas forcément lié à soi. Ou soit ça peut être complètement magnifique en fait, d'avoir des fondations qui peuvent permettre de traverser certaines tempêtes vachement plus facilement par la suite.
Et oui, c'est comment on vient reconsidérer complètement cette notion de vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse. Et ces mouvements, là tu parlais, effectivement, on peut être dans la grossesse, le postpartum, toute cette transparence psychique, qu'on a effectivement des phases de régression, des transformations aussi au niveau neuronal qui fait que parfois on a l'impression qu'on a perdu notre cerveau ou qu'on a des vieux bagages, des vieux traumas qui réapparaissent à ce moment-là. On se dit mais mince.
Mais je pensais que c'était réglé.
Ah ouais, je pensais que c'était réglé et je me retrouve confrontée à ça. Mais ça ne vient pas nier tout le chemin parcouru. Mais il y a quelque chose, on parlait de porosité tout à l'heure, mais c'est ça aussi, ça remonte. Ça remonte et en effet tout ça, puis on a l'impression des fois d'être un peu en vaillie ou plus forcément avoir de limites d'ailleurs au niveau du corps comme au niveau des émotions. Il y a des cultures qui parlent vraiment d'une ouverture complète du bassin, certes, mais aussi au niveau énergétique, au niveau...
Complètement.
Qui est là, c'est ça, on parlait de sensibilité, c'est ça qui fait que s'il n'y a plus trop de limites, bah, du coup, ok, je suis plus impactée, en fait, je peux moins me protéger. Et du coup, comment il y a cette vulnérabilité aussi corporelle, psychologique, émotionnelle, énergétique, et comment on vient prendre soin, là, tu parlais de... l'image de la poupée russe sur un certain type d'interprétation que je partage tout à fait, mais il y a aussi cette image de comment justement le bébé il peut être considéré comme cette toute petite poupée et en fait si on veut prendre soin de cette toute petite poupée, on vient pas s'occuper directement de cette toute petite poupée, enfin s'il y a des professionnels qui sont là aussi pour ça parfois il y a besoin, mais en fait non, autour de cette petite poupée c'est la mère, puis autour de cette petite poupée il y a le père et puis après il y a la famille et comment en fait autour on vient s'occuper de l'entièreté de ces poupées-là et il y a une vraie valeur à ça. Moi, j'ai envie de remettre aussi en avant la préciosité, la valeur de ce que c'est de pouvoir accompagner et entourer, alors là, en tant que professionnel, mais en tant qu'amie, en tant que famille. En fait, moi, les fois où je me suis retrouvée à aider des personnes de ma famille, de mes amis aussi, en dehors du cadre professionnel, mais waouh, c'est un cadeau immense d'être dans cette intimité, d'être dans cette dimension de service.
Tout à fait.
Et ça demande une adaptabilité, on ne vient pas s'imposer, on prend soin de la manière dont cette famille a envie de fonctionner. L'idée, c'est pas de s'imposer parce que moi, j'adore venir aider en plus. Et voilà, mais on est au cœur quand même de ces miracles de la vie, l'arrivée d'un
qui ne se voit pas de façon matérielle,
mais qui sont hors du temps, hors de l'espace. Et si chacun reconnaît cette valeur-là d'être présent aux côtés de ces familles-là, peut-être que ces familles, elles oseront plus demander aussi. Parce que, en fait, tout le monde s'y retrouve et puis on est dans quelque chose de circulaire.
C'est ça. Tu viens complètement chambouler le modèle capitaliste individualiste. Oh mince, ça va ! Qu'est-ce que tu fais ?
Et la vie a besoin de bouger.
Mais oui, voilà, c'est ça. C'est de repenser, en fait, notre façon de fonctionner, tout simplement, avant de le vivre. Pourquoi pas, et avant de le revivre, cas échéant. Et puis pendant, s'il y a besoin, mais c'est vrai que ça, là, on a, notre énergie, elle est moins disponible pour ça. Et bien sur ce, merci beaucoup Marie, c'était ultra riche, je suis trop contente. Merci, merci pour toutes les auditeurs, les auditrices. Je pense aux futurs papas aussi, qui souvent ils se demandent ce qu'ils vont foutre entre la femme qui allait, le bébé, eux qui reprennent le boulot, certes au bout d'un mois maintenant, mais enfin voilà, c'est tellement, en fait ils font partie de cette bulle là et pour pouvoir le vivre, ils vont pas faire toute la logistique non plus parce que c'est qu'un transfert, donc bien sûr ils vont peut-être faire plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire parfois, mais aussi voilà, d'élargir parce qu'ils ont aussi le droit d'être dans ce tissage là en fait.
Absolument.
Se mettre sur pause et de...
D'être dans l'être aussi.
Dans l'être, ouais, ouais voilà. Mm. Voilà. C'est ce mot qui regroupe un peu tout, c'est on coupe un peu le faire, l'avoir, et on est dans l'être, parce que c'est la ressource la plus fondamentale. Mais pour pouvoir être dans l'être, il faut faire un peu avant, avoir, parce que ça demande aussi des ressources matérielles, financières, mine de rien, un peu, des ressources de communication, et après, voilà, on peut être dans l'être. Mais ça demande à investir. C'est terrible en fait. Enfin, bref, j'arrête. Sinon, cet épisode, il va durer 148 jours. C'est pas l'idée. Mais ouais, il y a toute une vraie réflexion un peu systémique quoi, qui est d'ailleurs très abordée dans ton ouvrage Le Mois d'Or, dans certainement tes formations pour les futurs professionnels qui nous écoutent. Mais,
Oui, puis comment chacun, vu que la parole est libérée, je pense que. De plus en plus, on peut s'enrichir des expériences des uns et des autres. Nous, il y a le podcast du Mois d'Or aussi, donc justement, il y a beaucoup de témoignages aussi. Moi, je viens en parler aussi avec ma facette psy, mais il y a aussi beaucoup d'épisodes où c'est vraiment des témoignages de femmes ou de familles qui vivent. Et je trouve que plus on a une vision de la différence aussi des types de vécu, plus l'espace des multiples possibles est large et plus on peut comprendre aussi. Tu parlais des papas qui sont aussi des partenaires et pour qui parfois c'est quand même une sacrée expérience de sentir déjà de vivre nous-mêmes le fait de devenir père, d'être chamboulé dans sa famille comme ça, et puis parfois quand c'est intense aussi du côté de la mère, du côté de sa conjointe, c'est quand même une sacrée complexité aussi de vivre ça, de savoir ok mais comment je peux être présent sans être du côté du faire forcément, mais comment j'écoute ça, comment je prends ça, à quel moment c'est inquiétant, à quel moment c'est pas banal mais ça fait partie du voyage. Processus du voyage et je pense que les pères ont aussi beaucoup à être entendus et à créer des espaces. Moi, j'ai vraiment cette aspiration à ce qu'il y ait davantage d'espace pour les couples aussi, mais aussi pour les pères de leur côté et que aussi s'en emparent. Voilà, comment tout le monde a sa place dans cette grande aventure.
Sa place et sa responsabilité aussi.
Absolument, ouais. C'est aussi un engagement pour être pleinement investi et partie prenante de tout ça.
Marie, merci infiniment. Au plaisir de te retrouver. Puis on a tourné un autre épisode qui sera sur ton podcast qui s'appelle Le Mois d'Or.
C'est ça, c'est Parle-moi de ton Mois d'Or.
Parle-moi de ton Mois d'Or.
Parle-moi de ton Mois d'Or. Mais bon, en tapant Mois d'Or sur les plateformes en général,
on va te trouver. On te rate pas. Super. Eh ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère bien sûr que ça vous aura éclairé. Soutenu et ouvert peut-être des nouvelles pistes de réflexion. C'est un peu l'objet du podcast Un temps pour net pour le coup, donc on est bien dedans et puis on reste dispo si besoin d'un peu plus de lumière. Je vais remettre le lien du Mois d'Or dans la description et puis bonne fin de journée à tous et toutes où que vous soyez, et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige@untempsnaitre.fr. À bientôt.